Chapitre 36. De la lumière s'infiltra dans la caisse à mesure qu'on l'ouvrait. Sans doute parce qu'elles étaient rouillées, les charnières grincèrent atrocement jusqu'à ce que le fichu couvercle ait fini de se soulever. Zed cligna des yeux éblouis par tant de clarté. Des bras musclés rabattirent violemment le couvercle sur un côté de la caisse. Si la chaîne passée autour de son cou avait eu un peu de mou, le vieux sorcier aurait sursauté à cause du bruit, mais il n'était pas en mesure de bouger. Entre la vive lumière et le rideau de poussière qui dansait dans l'air, Zed ne voyait absolument rien. La chaîne fixée au fond de la caisse lui permettant à peine de soulever la tête, il n'avait aucun moyen de corriger cette pénible situation, d'autant moins qu'on lui avait lié les poignets dans le dos. Bref, mieux valait qu'il se résigne à rester couché dans sa caisse. Étendu sur le côté, le cou près de l'anneau de fer où était fixée la chaîne, il s'autorisa à respirer à plein poumon un air enfin renouvelé. Dans la caisse, il faisait une chaleur infernale, et ses geôliers ne lui avaient pas donné à boire plus de 2 ou 3 fois en quelques jours. C'était bien sûr insuffisant. Adi et lui n'avaient pratiquement rien eu à manger, mais l'eau importait beaucoup plus que la nourriture. Obsédé par l'idée de boire, Zed se demandait s'il n'était pas déjà en train de mourir de déshydratation. Il n'aurait su dire depuis quand il croupissait dans la caisse, mais il trouvait très étonnant d'être encore en vie. Tout au long d'un voyage mené à un train d'enfer, la maudite caisse avait été secouée par les cahots du chariot. Un miracle que le vieil homme n'ait pas récolté une fracture du crâne. Zed supposait qu'on le conduisait vers l'empereur Jagang. S'il survivait jusqu'à sa destination, il regretterait sûrement de n'avoir pas péri en route. Suffoquant dans sa caisse, il avait cru plusieurs fois que sa dernière heure était sur le point de sonner. À certains moments, il avait espéré sombrer dans son dernier sommeil. Considérant le sort qu'on lui réservait, la mort aurait été une bénédiction. Hélas, opter pour le suicide était exclu. Par le biais du Radahan, la sœur de l'obscurité pouvait aisément l'empêcher de s'étrangler avec la chaîne, et cesser de vivre simplement parce qu'on en avait envie n'était pas possible. La tête toujours plaquée contre le fond de sa prison, le vieil homme leva les yeux autant qu'il le put et aperçut un chiche carré de ciel. Un nouveau bruit lui apprit qu'on venait d'ouvrir une seconde caisse. Cette fois, les tourbillons de poussière soulevés par le couvercle le firent simplement tousser. Quand une quinte de toux d'Adi fit écho à la sienne, il se demanda s'il était soulagé ou désolé que la magicienne soit toujours en vie, car elle aussi allait devoir subir des atrocités sans nom. Zed était préparé à supporter la torture. Dans sa jeunesse, comme tous les sorciers, il avait dû passer l'épreuve de la douleur. S'il redoutait les sévices, il se savait capable de les subir jusqu'à ce que son vieux corps rende les armes. Et dans l'état où il était, le processus ne risquait pas de durer très longtemps. En un sens, être de nouveau torturé revenait à retrouver une vieille connaissance qu'il n'aimait pas et qui le lui rendait bien. Un rendez-vous qui était peut-être prévu depuis le jour même de sa naissance. Mais pour Adi, c'était différent. Depuis toujours, alors qu'il s'accommodait de la sienne, Zed avait du mal à supporter la douleur des autres. Imaginez, celle d'Adi lui donnait déjà des sueurs froides. Le chariot trembla quand le couvercle de la seconde caisse s'abattit sur le côté. Il y eut un bruit sourd, puis Adi laissa échapper un petit cri. Quelqu'un venait de la frapper. « Pousse-toi, vieille idiote, que je puisse ouvrir l'anneau !» Zed entendit des grincements et devina que la dame des ossements se tortillait comme un ver pour obéir. Un nouveau bruit sinistre signala que l'homme n'était pas satisfait du résultat. Zed ferma les yeux et regretta qu'un être humain n'ait pas un moyen de se rendre sourd à volonté. Le devant de la caisse du sorcier tomba comme un mur qui s'écroule, laissant passer davantage de lumière. L'ombre d'un homme recouvrit le corps maigrichon du vieux sorcier. Incapable de lever la tête, Zed ne put pas voir à quoi ressemblait le type. En revanche, il distingua tous les détails de la grosse main qui introduisait une clé dans la serrure de son anneau. Afin de laisser l'homme travailler en paix, il écarta autant que possible sa tête de l'anneau. En guise de remerciement, il eut droit à un coup de poing qui lui fit voir des étoiles et lui laissa les oreilles bourdonnantes. Quand l'anneau fut ouvert, l'homme saisit le vieux sorcier par les cheveux et le tira hors de la caisse comme s'il s'était agi d'un vulgaire sac de patates. Zed serra les dents pour ne pas crier quand il percuta durement le plancher du chariot, sa tête heurtant douloureusement de grosses glissières de bois. D'un coup de pied, son geôlier le fit basculer du véhicule puis s'étaler dans la poussière. Malgré la nausée et la douleur, le vieil homme tenta de s'asseoir quand on lui décocha un nouveau coup de pied, dans les côtes cette fois. Avec les mains liées dans le dos, se redresser n'était pas un jeu d'enfant. Après lui avoir caressé une fois de plus les côtes, un grand type prit Zed par les cheveux et le força à se redresser. Le sorcier sentit son estomac se nouer quand il vit la multitude de soldats qui grouillaient tout autour du chariot. Une marée de chair humaine couvrait à perte de vue la plaine et les collines. De toute évidence, le voyage était terminé. Du coin de l'œil, Zed vit qu'Adi était assise à côté de lui. La tête inclinée, elle avait un énorme hématome sur une joue. Lorsqu'une ombre s'étendit sur elle, la dame des ossements ne leva même pas les yeux. Une femme en robe de laine grise vint se camper devant les prisonniers. Abandonnant pour un temps l'estimation des forces ennemies, Zed reconnut en un clin d'œil la sœur de l'obscurité qui lui avait passé un collier autour du cou. Il ignorait son nom. Rien d'étonnant puisqu'elle ne lui avait jamais dit. En fait, elle n'avait plus daigné parler aux prisonniers depuis qu'on les avait enfermés dans des caisses. Aujourd'hui, elle se tenait devant eux avec l'air revêche de la gouvernante d'un duo de sales gosses. L'anneau qu'elle portait à la lèvre inférieure, le symbole de son esclavage, sapait toute son autorité aux yeux de Zed. Le sol était couvert de crottes de cheval. Presque tout était vieil et desséché, mais il y en avait de récentes. Derrière la sœur, des montures étaient attachées à des piquets au milieu des soldats. Les bêtes qui appartenaient à la cavalerie semblaient en bonne santé. Les chevaux de trait, eux, ne paraissaient pas très bien soignés. Des centaines de chariots stationnaient un peu partout dans un désordre étourdissant. L'air empestait. L'odeur des chevaux, du fumier, des latrines de campagne, des tentes surpeuplées et dépourvues d'équipements sanitaires. Par bonheur, la fumée âcre de centaines de feux de cuisson couvrait un peu cette ignoble puanteur. Les mouches, les moustiques, les abeilles et les moucherons pullulaient. Si les piqûres des moustiques étaient désagréables parce qu'elles donnaient des démangeaisons, celles des mouches et des abeilles faisaient mal sur le coup. Et avec les mains attachées dans le dos, les prisonniers ne pouvaient pas faire grand-chose pour se défendre, à part secouer frénétiquement la tête, histoire d'éloigner les agresseurs de leurs yeux et de leur nez. Les deux soldats qui avaient sorti Zed et Adi de leur caisse attendaient patiemment à droite et à gauche de la sœur. Derrière ce sinistre trio, le camp s'étendait à l'infini. Il y avait partout des soldats en train de s'exercer, de se distraire, de travailler ou de se reposer. Ces hommes portaient une grande variété de tenues. Des peaux de bête, des cuirasses, des tuniques recouvertes d'une cotte de maille. Les vêtements avaient tous un point commun, la crasse. Vu de loin, certains combattants de l'ordre ressemblaient plus à des vagabonds qu'à des guerriers. La plupart étaient hirsutes et probablement couverts de poux et d'autres représentants de la vermine attirés par la saleté et les mauvaises odeurs. Un vacarme infernal montait en permanence du camp. Des cris, des sifflets, des éclats de rire, des cliquettements métalliques, les sons plus puissants et caractéristiques des marteaux de forgerons ou des scies de menuisiers. Et par moments, dominant tout le reste, les hurlements de douleur d'un supplicié. Les tentes semblaient avoir poussé comme des champignons. De toutes les couleurs, elles évoquaient un tapis géant du plus mauvais goût. Pour les décorer, les soudards avaient pioché dans le butin. Des rideaux d'organdi en guise de rabat, un petit fauteuil ou une table trônant devant l'entrée. De temps en temps, des dessous féminins tenaient lieu d'étendards. Les chariots, les chevaux et les divers équipements étaient éparpillés un peu partout et visiblement au hasard. Avec son sol mille fois piétiné et pour longtemps saccagé, ce lieu ressemblait à un territoire cauchemardesque où la sauvagerie humaine pouvait s'épanouir en toute liberté. Ici, les pulsions les plus viles dominaient tout. Si les chefs de l'ordre avaient des prétentions philosophiques, leurs soudards n'étaient que des barbares.
« Son Excellence vous veut tous les deux !»
annonça la sœur aux prisonniers. Zed et Adi ne répondirent pas. Les deux soldats les relevèrent de force et emboîtèrent le pas à la sœur de l'obscurité qui s'éloignait à grandes enjambées. Une bonne dizaine d'hommes suivirent le mouvement. Le chariot s'était arrêté à la fin de la piste rudimentaire qui serpentait dans le camp. Au-delà de cette limite, on entrait dans une sorte de cercle intérieur où devaient être regroupés les officiers supérieurs. Juste avant cette zone sensible, défendue par des gardes armés jusqu'aux dents, les soldats du rang prenaient leur repas, jouaient aux dés, se partageaient le butin, plaisantaient grassement ou têtaient avidement leur outre de vin. Zed eut soudain une idée. S'il déclarait à haute et intelligible voix être responsable du sort qui avait tué des milliers de guerriers de l'ordre, ces hommes tenteraient sans doute de le lyncher pour venger la mort de leurs camarades, et avec un peu de chance, ils feraient subir le même sort à Adi. Un excellent moyen d'échapper à Jagang. Le vieux sorcier ouvrit la bouche et découvrit que la sœur, par l'intermédiaire du Radahan, l'avait provisoirement réduit au silence. Si elle ne l'y autorisait pas, il ne prononcerait plus jamais un mot. Après avoir franchi la ceinture de garde, la sœur et les prisonniers passèrent devant une bonne dizaine de chariots proprement alignés pour une fois. Tous étaient chargés de grandes caisses. Le butin magique pris dans la forteresse du sorcier, comprit Zed. Des dizaines et des dizaines d'artefacts précieux et mortellement dangereux récupérés par les colosses insensibles à la magie et placés sous les ordres des sœurs de l'obscurité, bien entendu. Quelle folie! Il y avait dans la forteresse des objets qui pouvaient provoquer un désastre, même entre des mains compétentes, dès qu'on les soustrayait aux boucliers qui les protégeaient. D'autres artefacts, indiciblement précieux, perdaient tous leurs attributs quand on les arrachait un peu trop longtemps à un environnement protecteur, les ténèbres par exemple. Les gardes qui défendaient la zone sécurisée étaient mieux armés, plus grands et plus menaçants que les soldats lambda, ce qui n'était pas peu dire. Alors que les combattants réguliers se détendaient ou s'acquittaient en râlant des inévitables corvées, ces hommes-là restaient vigilants en permanence. La sœur et sa petite colonne passèrent devant une rangée de tentes rondes d'une taille déjà imposante. Mieux tenues que celles des soudards, elles devaient abriter les plus proches collaborateurs de l'empereur, ses assistants et ses esclaves personnels. Zed se demanda si les sœurs prisonnières vivaient dans cette partie du camp. Il cessa vite de s'interroger, captivé par la vision soudaine de somptueuses tentes entourant un immense pavillon. C'était ici, sans nul doute, que résidaient les officiers supérieurs, les hauts représentants de l'ordre et les plus proches conseillers de Jagang. Si Zed avait eu à sa disposition une toile de lumière et le pouvoir de l'utiliser, il aurait pu décapiter l'armée impériale en un clin d'œil. Mais l'ordre se serait rétabli de ce coup dur, il le savait. Ses chefs suprêmes, bien à l'abri dans l'ancien monde, auraient trouvé une nouvelle brute pour semer partout leurs bonnes paroles. Pour en finir avec l'ordre, tuer Jagang ne serait pas suffisant. À l'heure actuelle, Zed aurait été en peine de dire ce qu'il fallait faire pour abattre la bête immonde. Malgré les idées simplistes que professait la majorité des gens, l'empereur n'était pas l'âme de l'invasion. La force motrice du Ranmar et destructeur était l'idéologie perverse de l'ordre. Pour survivre, cette philosophie malsaine ne pouvait tout simplement pas permettre l'existence du bonheur où que ce fût dans le monde. Sinon, comment aurait-elle pu justifier le malheur qui régnait en maître sur tous les territoires dominés par l'ordre? La liberté et la prospérité des habitants du Nouveau Monde étaient une insulte à la face des mensonges inlassablement répétés par les penseurs de l'ordre. S'il décrétait que la réussite individuelle était un blasphème, il fallait l'éliminer impitoyablement au nom des intérêts supérieurs de l'humanité. C'était pour ça que Jagang cherchait à conquérir et à écraser le Nouveau Monde.
« Ce sont eux ?»
demanda soudain un garde aux courts cheveux bouclés. Les anneaux qui pendaient à ses oreilles et à son nez le faisaient ressembler à un cochon de concours agricole. N'était qu'une bête primée aurait été plus propre et beaucoup moins puante.
« Oui, » répondit la sœur. « Tous les deux, comme on me l'a demandé. »
L'homme étudia attentivement les prisonniers. À son expression, il se tenait pour un défenseur du bien confronté à deux héros du mal. Quand il eut dûment noté la présence d'écoliers, la garantie que les deux vieillards ne pourraient pas nuire à Jagang, il s'écarta et fit signe à la petite colonne de se diriger vers un second cordon de garde posté juste devant les tentes impériales. Sans cacher son mépris, il regarda les démons partir à la rencontre de leur destin. Venant du cercle intérieur, de nouveaux hommes entourèrent les prisonniers. Zed vit que ces soldats-là portaient des tenues qui se rapprochaient beaucoup d'authentiques uniformes. Une cuirasse couverte d'une cotte de maille, un gros ceinturon, des bandes de cuir cloutées croisées sur la poitrine. À leur façon de se déplacer, le vieux sorcier devina que ce n'étaient pas des citoyens ordinaires enrôlés à la va-vite dans l'armée, mais des guerriers compétents qui avaient suivi une formation sérieuse. Bref, il s'agissait de la garde d'élite de l'empereur. Zed jeta un coup d'œil en coin à un des seaux d'eau mis à la disposition des gaillards qui montaient la garde en plein soleil. Un empereur digne de ce nom ne pouvait pas laisser ses protecteurs s'évanouir parce qu'il crevait de soif. Imaginant d'avance la réponse qu'il obtiendrait, le vieil homme ne se donna pas la peine de demander à boire. Adi se passa la langue sur les lèvres, mais elle aussi se garda bien de quémander. Le pavillon de l'empereur, un palais ambulant, pour dire la vérité, était orné d'une multitude d'étendards et de bannières rouges et jaunes. Avec les tentures extérieures brodées qui décoraient ses murs, cette structure ressemblait à la tente centrale d'une grande foire commerciale. Le garde posté devant une entrée soutint le regard de Zed avant d'écarter le grand rabat décoré de rondages d'or et de médaillons d'argent martelés. Un autre soldat poussa sans ménagement le vieux sorcier, qui manqua de s'étaler les quatre fers en l'air, mais réussit à se rétablir et à franchir l'entrée en titubant. Adi le suivit en boitillant. Dans le pavillon, le vacarme du camp était assourdi par les riches tapis disposés un peu partout et couverts de centaines de coussins de soie. Des tentures aux motifs colorés divisaient l'espace en une myriade de pièces. Au plafond, des ouvertures protégées par des carrés de gaz laissaient filtrer très peu de lumière mais assuraient parfaitement la circulation de l'air. Au milieu de ce qui devait être la salle d'apparat, vers le fond du pavillon, se dressait un magnifique fauteuil drapé de soie rouge. Le trône de Jagang, probablement. Pour le moment, le siège était vide. Quand des soldats eurent encerclé Zed et Adi afin qu'ils restent là où ils étaient, un officier passa derrière une des tentures d'où filtrait une chiche lueur. Les types qui entouraient Zed empestaient la sueur et leurs bottes étaient souillées de déjections de cheval. Bien qu'il fût aussi somptueux qu'un véritable palais, avec une prétention au sacré qui le rendait proche d'un temple, le pavillon de Jagang puait l'écurie. Les mauvaises odeurs des soldats aggravaient simplement les choses. L'officier réapparut, fit signe à la sœur de l'obscurité d'avancer et repassa avec elle derrière la tenture. Zed jeta un regard en biais à Adi, dont les yeux complètement blancs étaient fixés sur le vide. Faisant mine de sauter d'un pied sur l'autre pour se dégourdir les jambes, le vieil homme se pencha et posa le front sur l'épaule de la magicienne. Un geste de réconfort à un instant où seul le désespoir existait. D'une infime poussée, la dame des ossements confirma qu'elle avait reçu le message et qu'elle appréciait l'intention. Zed mourait d'envie de l'enlacer, mais il se doutait qu'il n'en aurait plus l'occasion. Des propos étouffés montaient de derrière la tenture. S'il avait eu l'usage de son don, Zed aurait pu les comprendre sans difficulté, mais le collier lui retirait cette possibilité. Au ton de la sœur, le vieux sorcier estima qu'elle faisait simplement un rapport circonstanciel. Les esclaves qui s'affairaient à brosser les tapis, à faire briller les vases ou à cirer les meubles en bois rare ne prêtaient aucune attention aux prisonniers. En revanche, ils tendirent l'oreille quand la conversation s'envenima dans la pièce invisible et se mirent à travailler avec un enthousiasme suspect. À l'évidence, on devait conduire souvent des prisonniers devant Jagang, et ses serviteurs savaient que ce n'était pas le moment de se faire remarquer en tirant au flanc. Une odeur de nourriture flottait dans l'air. Captant une grande variété de senteurs, Zed plissa le nez un peu surpris. Mais avec la puanteur ambiante, le mélange olfactif à base de viande, d'huile d'olive, d'ail, d'oignons et d'épices avait plutôt tendance à vous retourner l'estomac. L'anneau qu'elle portait à la lèvre brillant vivement sur sa peau grisâtre, la sœur ressortit et fit un petit signe aux hommes qui entouraient les prisonniers. Sans ménagement, les soldats poussèrent les deux vieillards dans l'antre de celui qui marche dans les rêves.